Donnera tout le reste en plus.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
It's amazing how you can speak right to my heart. Saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile. Touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Tragedy or triumph, you're so good at sick. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island, yeah, you're so good at sick. Now it feels like beautiful madness, feels like never enough. Don't you know? Cash flow, we got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep. Just kick.
votre message Pain de vie avec le pasteur Samuel Peter Schmidt.
Mon thème sera Entrer dans le repos. 6 points. Premièrement, une invitation, venez. Deuxièmement, nous verrons qui nous invite à venir. Troisième point, qui est concerné par l'invitation. Quatrièmement, à qui l'invitation s'adresse-t-elle encore? Cinquième point, que nous propose Jésus? Et pour terminer, quelles en sont les conséquences dans nos vies? Notre lecture sera dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Jésus parle et dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je crois que nous sommes dans une société qui aspire profondément au repos. Le temps de travail a été réorganisé pour que les ouvriers et ouvrières aient plus de repos. On augmente le temps des vacances, on propose toutes sortes de cures pour se reposer, des séances de relaxation, vous êtes couché par terre, vous regardez le ciel, on vous passe une cassette avec une musique douce et on vous dit « détendez-vous ». Détendez-vous, détendez-vous. C'est preuve qu'on est dans une génération qui a besoin de repos. Pourtant, malgré tout ce qu'on nous a mis en place, il me semble que les gens sont de plus en plus stressés, fatigués, voire épuisés, surmenés et parfois même fatigués de vivre. J'aimerais vous emmener avec moi dans un voyage dont vous et moi nous sommes invités. J'aimerais vous dire que Jésus commence par une invitation. Venez. C'est important de réaliser que vous êtes l'invité. Il ne s'impose pas à vous. Très souvent, les gens me disent, si Dieu veut que je vienne, il n'a qu'à me chercher. Ben, vous resterez longtemps. Il ne viendra pas. Il vous invite. Il vous appelle. Il vous dit, venez, mais il ne s'imposera pas à vous. Remarquez, Jésus donne une parabole, celle des noces. Il dira qu'un roi donnera les noces pour son fils et enverra ses serviteurs pour chercher et inviter les personnes. Les serviteurs iront, inviteront, convieront les gens à venir, mais chacun d'entre eux aura des excuses. L'un dira « Je ne peux venir parce que j'ai acheté 7 paires de bœufs et je dois les essayer. » L'autre dira « Je me suis marié, je ne peux pas venir. » La Bible nous dit que le roi va sanctionner ces derniers et puis va inviter d'autres personnes. Voyez-vous, nous sommes invités. Nous avons le droit de ne pas répondre à l'invitation, mais nous devons être conscients d'une chose. Si moi, je ne réponds pas à l'invitation, c'est quelqu'un d'autre qui prendra ma place. C'est juste et c'est normal. Vous et moi, nous avons le droit de dire « ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de toi, je ne veux pas de ton invitation ». Ça, c'est notre liberté. Mais mesurez bien le fait que la place ne restera jamais libre. Parce que si moi je ne viens pas, Dieu cherchera quelqu'un d'autre. Deuxièmement, dans ce même « venez », eh bien il y a une exigence. « Venez » exige une décision et une action de la part de celui qui est invité. La décision de venir à Jésus est une décision personnelle. Personne ne peut répondre à votre place. Nous sommes vraiment tous individuels dans ce lieu. Je ne m'adresse pas à une foule, je m'adresse à chacun individuellement parce que chaque personne doit répondre. Mes amis, l'invitation est personnelle. Celui qui désire le repos doit venir lui-même vers Jésus. Et personne ne peut prendre sa place. Deuxième point, qui invite? Eh bien Jésus est clair, il dira « Venez à moi ». Il se propose lui-même de venir à votre secours. Il se permet de vous lancer l'invitation, quelle que soit votre situation, et de se proposer lui-même de vous secourir parce qu'il sait qu'il est en mesure de le faire. Il a la capacité de le faire. Il ne vous envoie pas vers Abraham, il ne vous envoie pas vers Moïse. Aussi éminents qu'étaient ces hommes de Dieu, aussi fameux est-il été, Jésus ne vous envoie pas vers Moïse. Jésus vous dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans le discours du religieusement correct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, il ne faut plus trop dire ça. C'est très mal vu de dire « Jésus est le seul chemin ». On est plutôt dans la recherche d'un consensus, dans la recherche d'un message qui convient à tout le monde. Alors on dit « Mais Dieu est tellement bon que tout le monde ira au ciel ». Qu'importe le chemin que vous prenez, pourvu que vous soyez sincères. Vous savez, si vous voulez partir sur Paris et vous asseyez dans le train qui va à Berlin malgré votre sincérité, vous êtes dans la mauvaise direction. Quand vous sortirez, vous verrez le Reichstag et non pas la Tour Eiffel. Notre sincérité, c'est parfois une manière de dire « je n'ai pas envie de suivre le chemin qu'on me propose ». Alors on cache cela derrière une forme de sincérité. Mes amis, Jésus dit de lui-même « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». C'est-à-dire, aucun d'entre nous, quel que soit votre rang social, nul ne vient au Père que par moi. Jésus ne cherche pas un consensus, il ne cherche pas à plaire. Il affirme qu'il est ce qu'il est, et il est Dieu. Et il est le chemin, et il est le seul moyen par lequel vous puissiez arriver au Père. Dans le livre des Actes, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Chers amis, malgré tous les discours que l'on vous a tenus, malgré le prétendu grand cœur de Dieu et l'amour de Dieu qui est une réalité, c'est lui qui définit le moyen par lequel on accède à lui. Et ce n'est pas nous qui lui imposons le moyen par lequel nous venons à lui. C'est Dieu qui a choisi d'envoyer son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est lui qui nous indique le processus pour venir chez lui et ce n'est pas nous qui pouvons lui imposer notre manière de voir les choses pour nous approcher de lui. Quand vous venez chez moi à la maison, si je vous invite, alors vous êtes invité à passer par la porte d'entrée. Et si un d'entre vous dit « Ah ben ça m'a invité, mais moi j'ai décidé de passer par la cheminée », je vous promets que je mettrai du feu dans le fourneau. Vous n'avez pas le droit de venir chez moi en dehors du chemin officiel par lequel on vient. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de passer par la fenêtre du balcon chez moi que vous avez le droit d'entrer chez moi. Il y a un chemin. Dieu a fixé le chemin. C'est à nous de nous soumettre au chemin qu'il nous propose. Et nous ne pourrons jamais lui imposer quelque chose. Jamais. Ni au nom de la sincérité, ni au nom de quoi que ce soit d'autre. Troisième point, à qui s'adresse l'invitation? Eh bien, Jésus commence par dire « Venez à moi, vous tous ». J'insiste là-dessus. Vous savez, trop souvent, on a le sentiment que bien des personnes, face à cette invitation, se disent « Mais ça, c'est uniquement pour les fatigués, les malades ». Cette invitation-là ne correspond qu'aux gens qui ont des problèmes, qu'aux gens qui ont des difficultés, qu'aux gens qui sont, dans la détresse. Cette invitation, finalement, ne me concerne pas. Chez moi, tout va bien. Mon couple va bien, ma maison va bien, je gagne bien ma vie. À l'apparence, tout va bien. Mais vous savez, ça fait longtemps que je ne me fie plus à l'apparence. Parce qu'au dehors, tout peut sembler bien, et au-dedans, tout peut ressembler à une catastrophe. Derrière les grands sourires affichés parfois, il y a beaucoup de détresse. Je vous l'avais dit un jour, j'arrive à la médecine du travail. Et puis, là, c'était une doctoresse, une jeune femme. Elle me dit, écoutez, monsieur le pasteur, moi, je n'ai jamais examiné un pasteur. C'est quoi votre risque professionnel? Je lui ai dit, je ne sais pas, moi, une entorse de la langue. Alors, elle s'est mise à sourire, elle s'est détendue un tout petit peu. Et puis, tout d'un coup, derrière cette belle jeune femme, pleine d'assurance, qui, à quelque part, avait réussi, plus j'entrais dans la discussion, plus je découvrais la misère. Et puis au bout d'un moment, elle me dit « Pasteur, puis-je vous parler ?» Je lui dis « Oui, allez-y. » Elle me dit « J'ai beaucoup de mal. Il y a peu de temps encore, je n'exerçais plus parce que j'ai fait une tentative de suicide. J'ai voulu m'enlever la vie. Je suis désespéré. D'abord, je suis arrivé devant une personne pleine d'assurance. Et tout d'un coup, un gouffre de détresse. j'ai pu lui parler du Seigneur. Et elle est venue chercher une Bible le mardi suivant, ou le dimanche suivant, je crois que c'était. Ne vous fiez pas à l'apparence. L'invitation, c'est à vous tous. En d'autres mots, on ne va pas vers Jésus uniquement lorsqu'on a des problèmes. S'il est juste et vrai que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades, cela n'exclut pas le fait que Jésus ne soit pas seulement venu pour les malades. Il est également venu pour ceux qui pensent ne pas avoir besoin de lui. La preuve, regardez qui il choisit pour ses disciples. Vous avez l'impression qu'il a pris 12 dépressifs ? Franchement, quand vous regardez l'apôtre Pierre, moi, il me semble pas malade, Pierre. Hein, il me semble plutôt plein d'énergie, vigoureux, volontaire. Il sait ce qu'il veut, Pierre. Ah, le serviteur, il n'est pas d'accord. Il lui pointe les oreilles. Non, non, Pierre était quelqu'un de décidé. On n'a pas affaire à quelqu'un là dans la détresse. On a là affaire à un homme qui sait ce qu'il veut. C'est un pêcheur. Physiquement, il est solide. Il est marié, la Bible ne nous dit pas qu'il est venu à Jésus parce que sa femme lui faisait des misères. Apparemment, tout allait bien, tellement bien que même sa belle-mère, il s'en occupait. Et quand elle aura la fièvre, il appelle Jésus pour qu'il vienne la guérir. C'est qu'il aime la belle-mère. Non, non, Pierre aimait sa belle-mère. Pierre se réjouissait de voir sa belle-maman être rétablie. Ah ça, c'était une... Ça, il se réjouissait. Donc Pierre est un type tout à fait normal, qui va bien... et que Jésus appelait. Et je pourrais en énumérer d'autres comme cela. Mes amis, il n'est pas seulement venu pour ceux qui ont des problèmes, il est venu pour chacun d'entre nous. Venez à moi, vous tous, sans exception et sans exception. Sont donc concernés hommes et femmes, jeunes et vieux. Quelles que soient vos origines, quelle que soit votre race, quelle que soit la couleur de votre peau, vous tous qui entendez cette invitation, vous êtes concernés. Chacun, sans exception. Vous êtes, et nous sommes donc, tous individuellement responsables de la décision que nous allons prendre. J'aimerais préciser autre chose. Tous ceux qui refusent l'invitation prêtent à assumer la décision que nous prenons. Et tous ceux qui refusent l'invitation de Jésus s'engagent solennellement à ne jamais reprocher à Dieu de ne pas être venu les secourir lorsqu'ils sont dans la détresse. C'est pas lui qui n'a pas voulu vous secourir. C'est vous qui lui avez dit non. Dire non, c'est pas seulement dire non. Dire non, c'est aussi s'engager solennellement à dire « Quoi qu'il arrive dans l'avenir, dans ma vie, jamais je dirai « C'est de la faute de Dieu. » Jamais je dirai « Dieu m'a laissé tomber. » Parce que c'est le résultat de ma décision. C'est moi qui n'ai pas voulu qu'il vienne. Ma liberté, c'est de dire non. Mais il faut que j'assume. Mais nous nous engageons alors également à dire « Jamais je ne ferai de reproche à Dieu, quoi qu'il arrive dans la suite des événements concernant ma vie. » Quatrième point, à qui s'adresse-t-elle encore ? À nous tous ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque c'est nous tous, croyons en lui, ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Cependant, eh bien, le texte précise autre chose. Elle s'adresse encore, cette invitation, à ceux qui sont fatigués. Et chargés. Vous qui êtes venus, qui êtes fatigués et chargés, vous qui avez des problèmes, j'aimerais vous dire que le Seigneur vous invite à venir à lui, il vous aime. Et permettez-moi quelques remarques. Lorsque le terme fatigué est employé ici, le mot traduit par fatigué est étymologiquement parent de marteau et de coup. Le mot qui est employé là, lorsqu'on parle de fatigué, est étymologiquement parent avec le terme « marteau » et « coup ». En fait, il désigne en premier lieu la fatigue physique et morale résultant d'un coup que vous avez reçu. D'ailleurs, les auteurs grecs l'emploient dans le sens de dépression, il signifiait aussi épuisé, las et abattu. Il concerne donc premièrement ceux qui sont moralement fatigués parce qu'ils ont reçu des coups. Combien parmi nous ont reçu des coups dans leur vie ? Certains, vous savez, à peine étaient-ils nés, déjà ils recevaient des coups. Certains sont nés, on ne les a jamais désirés. Certains sont nés et apprendront plus tard qu'on a voulu les avorter. Certains sont nés et on apprendra plus tard qu'on a voulu les détruire. Une sœur un jour me disait la chose suivante. Elle m'expliquait à quel point elle a eu un problème physique au niveau des pieds lorsqu'elle avait un peu plus de 50 ans. Elle va voir le médecin. Et le médecin lui dit, mais que s'est-il passé chez vous dans votre vie à l'âge de 2-3 ans, voire même plus jeune? Alors elle dit, docteur, moi je vous demande de soigner mes pieds, je vous demande pas de me poser des questions sur ma vie. Il lui dit, mais que s'est-il passé? Elle dit, oh, moi je sais pas, moi je m'en souviens plus. Puis elle rentre à la maison et la question du médecin, qui sort quand même des questions habituelles, la travaille. Elle a un frère aîné. Et lorsqu'elle le voit, elle lui repose la question, elle lui dit, j'étais chez le docteur et puis il me demande ce qui s'est passé lorsque j'étais petite. Il me dit, il s'est passé quelque chose. Et là, le frère aîné baisse la tête. Il dit, je voulais jamais te le dire, j'avais décidé de ne jamais t'en parler, mais puisque tu me poses la question de cette manière-là aujourd'hui, maman t'a jamais voulu. À cette époque-là, on n'avortait pas comme aujourd'hui, elle avait tout fait pour essayer de te perdre et ça n'a pas marché. Lorsque tu es venu au monde, chaque fois que tu pleurais, c'est une haine qui montait en elle. Et un jour, lorsque tu as pleuré plus que d'habitude, et là, dans sa rage, elle t'a prise et elle t'a jeté contre le mur. Tu es tombé à terre, mais tu vivais encore. Et c'est à cette époque-là que déjà était blessé l'enfant, ce qui se manifestera plus tard par des pieds complètement recroquevillés, des difficultés à aller, etc. Mes amis, combien ont pris des coups? Quand Jésus dit « fatigué », c'est des coups de marteau, c'est des paroles assassines, c'est des moqueries liées à votre physique, c'est peut-être à l'école, et bien des moments où l'on vous a ridiculisé. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai vues pleurer dans le bureau, parce qu'à l'école, ils étaient la risée de tout le monde. Vous savez, l'école, c'est pas pour tout le monde une sinécure. Pour ceux qui ont des facilités, c'est bien, mais pour certains, j'aimerais vous dire que c'est un lieu aussi... Tout le monde n'est pas attentif, eh bien, l'on peut vivre une forme de torture intérieure. Il se peut que vous ayez pris des coups sur votre lieu de travail, des trahisons. Peut-être qu'après 30 ans de bons et loyaux services, eh bien, on vous a remercié, on vous a dit bye-bye parce que vous n'êtes plus rentable, on a pris un jeune à votre place. Ça fait mal. Ça tue le moral. Oui, ça brise. Peut-être tout simplement certains ont pris des coups liés au péché des autres. Peut-être êtes-vous là, mon ami. Monsieur, madame, votre vie a été brisée suite à l'adultère de votre conjoint. L'élan que vous aviez, tout l'amour que vous aviez, tout s'est effondré. La famille que vous aviez imaginée, eh bien, c'est comme un château de cartes. Subitement, tout est par terre. C'est peut-être lié à un mensonge, c'est peut-être lié à une injustice. Combien n'ont pas été brisés dans leurs illusions, dans l'affection qu'ils avaient de leurs parents, lorsque un jour, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que le partage était loin d'être juste et équitable. Vous avez peut-être été victime d'un viol, d'un inceste. Ce sont autant de choses qui détruisent. Peut-être, eh bien, n'êtes-vous pas seulement victime du péché des autres. Peut-être êtes-vous victime de votre propre péché. Peut-être se trouve-t-il ici quelqu'un, eh bien, qui s'est mise à boire et la boisson t'a détruite, mais elle a également détruit ceux qui sont autour de toi. Peut-être est-ce ta consommation de drogue. Vous savez, c'est fou aujourd'hui le nombre de jeunes qui sont schizophrènes. Mais on constate de plus en plus qu'énormément de jeunes qui prennent le joint, eh bien, ont une tendance à la schizophrénie par la suite. C'est ton propre péché qui peut-être aujourd'hui te poursuit. C'est peut-être à cause de ton adultère que tu as perdu ta femme, tes enfants et toute ta famille et tu pleures. Je me souviendrai toujours d'un homme qui est venu. Il pleurait. Il me dit, pasteur, ma femme m'a quitté. Je dis, ah bon, c'est votre épouse? Il dit, c'est ma deuxième femme. Je dis, ah bon? Mais comment vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais je dois reconnaître à quelque part que l'histoire se répète et que je suis rattrapé par l'histoire. Je lui dis comment? Il me dit oui, j'étais marié une première fois, j'avais deux enfants, et puis j'ai rencontré cette femme-là. J'ai commencé à tomber amoureux, je l'ai fréquentée, je ne pensais plus qu'à moi, j'ai abandonné ma femme et mes deux enfants. Et puis je me suis marié avec celle-là, elle était plus jeune que moi, elle me plaisait, et nous avons eu deux enfants. Et maintenant c'est elle qui me quitte pour quelqu'un d'autre. Des coups que vous prenez. Lié à votre propre péché, peut-être vos fausses priorités, ma carrière d'abord, et votre épouse frustrée est partie parce qu'elle ne vous voyait jamais. L'argent, le désir d'avoir de plus en plus, combien aujourd'hui sont pris par cela? Ils n'ont jamais assez. toujours plus. Et un beau jour, eh bien, vous recevez tellement qu'on vous offre même un huissier avec. Et là, c'est la dégringolade. Et là, ça va mal. Et vous souffrez. Et vous êtes fatigué. Vos avortements, peut-être, vous poursuivent. Et je ne parle pas qu'aux femmes. Vous savez, souvent, quand on parle d'avortement, tout le monde vise les femmes. J'aimerais vous dire qu'il y a, à mon sens, beaucoup d'hommes qui sont responsables des avortements de leur épouse. Beaucoup d'hommes qui ont exigé de leur femme qu'elle avorte, la menaçant de la quitter si elle ne le faisait pas. Ils ont autant de sang sur les mains que leur épouse. Chers amis, la Bible me dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Fatigué, et ensuite il nous a dit « chargé ». Accablé, ça évoque quoi? Eh bien, ça évoque une bête de somme ployant sous un trop lourd fardeau. Voilà ce que ça évoque. Chargé, écrasé, le sentiment de ne plus y arriver. J'ai plus la force, j'y crois plus. Alors certains se mettent à boire parce qu'ils n'y arrivent plus. D'autres se mettent à se droguer parce qu'ils ont le sentiment que j'y arrive plus. Certains fumeurs de joint me disent, tu sais, après un bon pétard, je me sens mieux. J'ai l'impression que j'ai plus de problèmes. Moi, j'ai le sentiment que tu es en train de les additionner. Et quand la facture tombe, elle sera lourde. Mais on fuit, on ne supporte plus. C'est Vincent Van Gogh qui disait, mourir, c'est difficile. Mais vivre, c'est plus difficile encore. Il s'est suicidé. Oui, chargé, écrasé, on ne supporte plus. Alors que propose Jésus? Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Très souvent, quand le Seigneur parlait, il imageait ses paroles avec les scènes de la vie quotidienne. Et à cette époque-là, en Israël, on voyait encore nombre de bœufs qui avaient le joug et que l'agriculteur, eh bien, dirigeait grâce au joug qui était sur les bœufs. Aujourd'hui, en Europe, on voit moins ça. On voit des agriculteurs dans des grands tracteurs, cabines insonorisées, avec climatisation. Le coup de l'âne ou le coup du bœuf, c'est assez rare. Par contre, allez au Sénégal et vous le reverrez. Allez dans certains pays et puis vous reverrez ça comme des scènes courantes. Le bœuf avec le joug et puis derrière, le frère Jean-Peter Schmitt en train de... Il l'a fait, il me l'a dit à son époque. Hein, tu l'as fait ça. Et Jésus dit là, mais prenez mon joug sur vous parce qu'il est doux et léger. On va prendre une image. Lorsque, si vous arrivez un peu à faire fonctionner votre imagination, considérez la bête de somme. Par exemple, le petit âne. Moi, j'ai vu des ânons être chargés. Et vous savez, au stade où ils tremblent pour lever le sabot, tellement on écrasé. Et alors, pour qu'il avance, parce que quand c'est comme ça, c'est pas rien, pour qu'il avance, celui qui est derrière lui donne des coups de trique, mais il fait autre chose. En général, ils ont un pic. Et avec le pic, il pique dans les plaies de l'animal. Et on veille à ce que les plaies ne se ferment jamais pour qu'on puisse toujours continuer à piquer dedans. Alors évidemment, eh bien, la douleur vous fait faire des choses que vous ne feriez pas autrement. Le petit âne, à cause de la douleur, à cause de la blessure, à cause des pics qu'il reçoit dedans, va avancer. Mais combien de temps et à quel prix ? Imaginez l'ânon qui un jour reçoit un autre maître. Un maître qui commence à le caresser, qui commence à prendre soin de lui, qui commence à d'abord le soigner. Imaginez l'ânon que l'on commence à remettre sur pied d'abord, et puis qu'ensuite on utilisera uniquement avec des charges qui surtout lui permettent de travailler normalement. Vous imaginez à quel point l'âne doit être reconnaissant? Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme chargée arrive vers Jésus, ce qu'il ressent en recevant Jésus dans sa vie est bien plus puissant que ce que l'animal peut ressentir. C'est un changement de maître. Vous passez d'un esclavage à la liberté. Vous savez, lorsqu'il est parlé de joug, eh bien, la Bible nous dit que le joug est là pour conduire. Mais très souvent, le péché est le propre joug de l'homme. Notre péché est souvent notre propre joug qui nous écrase. qui nous conduit dans des directions qui nous détruisent et qui nous font du mal. Derrière un joug se trouve toujours quelqu'un qui le conduit. Et derrière le joug du péché, vous pouvez être sûr, se trouve toujours le même, Satan qui dirige. Il va vous diriger vers l'adultère, il va vous diriger vers la boisson, il va vous diriger dans l'orgueil, il va vous diriger dans votre grande carrière, oui, il va vous pousser toujours plus, jusqu'à vous détruire. Il y a toujours quelqu'un qui dirige derrière. Jésus lui dit, prenez mon joug sur vous, car il est doux et léger. Regardez ce que dit Pierre, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est ? Si je reprends l'image de l'ânon, c'est presque l'ânon qui charge son paquet sur celui qui s'occupe de lui. Mes amis, c'est vous et moi qui sommes invités à venir et à lui remettre notre fardeau. Et lui nous dit une chose, je me charge de ton fardeau à ta place. Et au lieu que toi tu ploies sous les coups que tu as reçus, au lieu que la fatigue de ton âme se fasse plus forte, plus pressante, t'étouffe et te détruise, moi je me charge de ton fardeau. Je me substitue à ta place et je le porte. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous pouvez ressortir de ce lieu libre. Vous pouvez ressortir de ce lieu avec vos fardeaux déchargés sur Jésus. Il se propose de les prendre. Qu'avez-vous à faire ? Simplement accepter son joug. En quoi cela consiste ? Vous savez, quand je pense à Jésus, quand je pense au joug, je pense à la croix qu'il a portée à notre place. Mais lui-même nous dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors vous allez me dire, mais là il est parlé de croix. J'aimerais vous dire que son joug est doux et léger, parce que la croix qu'il nous propose n'est pas celle que lui a portée, sur laquelle il a été écrasé par le péché. C'est celle qui nous libère, c'est celle qui nous délivre du poids du fardeau que nous portions. Il est là, son nom est Jésus. Et il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, en d'autres mots, vous tous qui avez pris des coups de marteau, vous tous dont l'âme a été brisée, par mille raisons, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a tellement d'autres. Il dit, viens. Vous tous qui ployez sous le fardeau, vous qui êtes peut-être, vous avez l'impression intérieure d'être comme le petit ânon, chargé au point où vous n'arrivez plus à marcher. Et les seules fois où vous avancez, c'est quand vous prenez des pics douloureux. J'aimerais vous dire qu'il veut vous recueillir, qu'il veut vous soigner et qu'il veut vous rétablir. Ce sera mon dernier point, le sixième. Conséquence de votre démarche vers Jésus. Il est dit là, vous trouverez du repos pour vos âmes. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de repos ? J'aimerais te dire, tu trouveras du repos pour ton âme. Le repos se traduit par une paix intérieure. Soudain, la culpabilité qui vous quitte. Soudain, les conséquences de ce que vous avez fait qui ne pèsent plus sur vous. Soudain, le sentiment d'avoir été réellement pardonné. Soudain, le sentiment de plus être coupable de tous les actes desquels pourtant vous étiez coupable parce que vous les avez faits. Mais à cause de votre repentance, lui se charge de vos fautes et vous rend libre. Lui se charge et vous soulage. Mes amis, la paix vient alors. Non pas la paix que le monde nous propose souvent. La paix qu'on nous propose, eh bien, c'est une espèce de sécurité matérielle. Les gens se sentent en paix quand ils ont un compte en banque bien garni, quand ils sont en bonne santé, quand ils ont un bon toit sur la tête. Là, ils se sentent en paix. Mais ce n'est pas ça la vraie paix. La paix que Christ nous donne est cette paix d'abord qui se traduit par cette réconciliation avec lui. Vous savez que Dieu vous aime et vous aimez Dieu maintenant. Vous savez qu'il a son regard sur vous, vous savez que votre vie a une raison d'être et vous savez qu'un jour vous partirez et vous serez près de lui. Deuxièmement, la paix intérieure, celle du cœur que Dieu donne, c'est la paix de l'esprit. Elle vous libère de votre culpabilité, elle vous réconcilie avec vous-même. Et elle vous permet ensuite de vous réconcilier avec les autres. Elle vous permet même de pardonner à ceux qui vous ont offensé. En fait, au lieu de rester faible, vous devenez fort, parce que pour pardonner, il faut être fort. Vous recevez donc cette force qui vient d'en haut et vous êtes en mesure de pardonner. Et puis, je termine, elle se traduit par la guérison des blessures dans votre cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Le terme employé là dans l'hébreu peut autant concerner la vie que l'âme, qui est le siège de la conscience, qui est le siège de l'intelligence, qui est le siège des émotions, etc. Jésus se propose de vous guérir jusqu'à la racine de votre être. Jusqu'au plus profond de vous-même, il vient pour vous restaurer et vous relever. Nous sommes tous individuels. David dira, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. En conclusion, nous sommes tous invités à entrer dans le repos. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Êtes-vous entré dans le repos de Dieu? Et s'il vous fallait quitter la terre, êtes-vous sûr de le rencontrer?
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Who fills my cup when it's empty and dry? Who picks me up when I fall and I cry? Who dries my tears when there's no one who knows? Who knows my fears when my heart remains closed? It's you alone, everlasting Father. You alone, my faithful provider. You alone, my best friend and brother. For there's no one who cares, and there's no one who shares like you alone, alone. Who gives me strength when I'm down on the ground? Who provides faith when I'm wearing a frown? Who crowns my head when I've lost all my pride? Who's always there when I'm hurting inside? It's you alone, everlasting Father. You alone, my faithful provider. You alone, my best friend and brother. For there's no one who sees, there's no one who hears like you alone, alone. When I'm alone, when I'm alone, hey, hey, hey. When my world is upside down and my feet have
friend and brother. For there's no one who cares, and there's no one who shares like you alone.
Parole du jour, chaque jour un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. Ruth 2, 7. Le temps de Boaz. Bonjour à tous. Après 10 ans d'épreuves et de chagrin, Ruth perd son mari. Dieu lui fait connaître alors son nouveau mari, Boaz. Où ? Dans le champ où elle travaille chaque jour. Qui est Boaz ? Le propriétaire du champ. C'est la persévérance de Ruth qui attire l'attention de Boaz sur elle. Le responsable des moissonneurs lui dit « Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. » C'est ainsi qu'elle se retrouve mariée au patron. La Bible compare souvent paresse et travail, négligence et perfection, retard et ponctualité, honnêteté et malhonnêteté, attitude positive et attitude négative. Quelqu'un vous observe et est prêt à vous bénir. Voici 3 passages de l'Écriture sur ce sujet. Premièrement, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage ? Il se tient devant des rois. Il ne se tient pas devant des gens obscurs. Proverbe 22, 29. Le paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Les hommes actifs sont dans l'abondance. Proverbe 13, 4. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. Proverbe 10, 4. Remarquez les expressions « une main nonchalante » et « le paresseux ». En attendant beaucoup et en donnant le moins possible en retour, on ne lèse pas seulement l'entreprise pour laquelle on travaille, on se lèse soi-même. Pourquoi ? Parce que Dieu promet de nous honorer lorsque l'on donne le meilleur de soi. Sa parole dit « Non, la grandeur ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest. » Mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Psaume 75, 7 et 8.
Recevez la brochure « Parole du jour » chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application « Parole du jour ».
Phare FM, l'émotion partagée.
That's my own.
The signs and the words on the prophets are written on
whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without.
Tu remplis d'allégresse cette terre que tu as créée. Tu la combles de richesses et abreuves les plaines asséchées. Fais tomber ta pluie, ta fleuve de vie, inonde nos cœurs. Courant de l'année, de tes bienfaits, fais grâce encore Seigneur. Notre espoir, toi le Dieu sauveur. Notre unique providence, oui nos yeux verront ta faveur. Fais tomber ta pluie, qu'un fleuve de vie inonde nos cœurs.
De l'amour.
L'image biblique du mariage, c'est le fusionnement de deux vies en une unité nouvelle qui satisfasse aussi bien les individus concernés que le but recherché par Dieu. Nos cœurs réclament l'intimité. Nous avons été créés pour partager la vie avec quelqu'un. Dieu a institué le mariage pour qu'il soit la relation la plus intime qui soit parmi toutes celles de l'humanité. Nous allons donc partager la vie du point de vue sentimental, social, intellectuel, physique et spirituel. Tout va dépendre du degré avec lequel nous vivons cette sorte d'intimité. En effet, la profonde satisfaction que nous allons trouver dans le mariage sera proportionnelle à ce que nous vivons avec cette sorte d'intimité. L'ampleur de notre échec à vivre cela déterminera le degré de sensation de vide dans le mariage. Dieu avait prévu ce que le mariage devait apporter, mais des milliers de couples n'en ont pas profité. Ils vivent leur vie dans l'isolement et l'indépendance. L'intimité exige un engagement. L'engagement de parler, d'écouter et de chercher à comprendre. Ensemble, nous planifions et vivons notre vie en communion avec Dieu. Voilà le mariage que Dieu souhaite.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago, en partenariat avec Phare FM.
I've got you starring in the movie in my head. You're that girl from every book I've read. The one that makes the boys go ooh, ooh, ooh. What do I do? I'm the boy that has to find a way to get to you. It doesn't matter what I have to do to prove to you my love is true. Ooh, ooh, my love is true. Just take my hand. Down to Mexico or take a movie in and just lay low. It doesn't matter what we do, ooh, ooh, just me and you. Don't be shy when I lose myself inside your eyes. If I always seem to be surprised by your beauty all the time, all the time. Just take my hand.
Like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in the hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing.
I like to dance and it looks like this.
I like to dance and it looks like this.
Yeah, looking good. We like to dance and it looks like this. Come on.
Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips.
My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining.